Bonjour tout le monde, ici Antoine Dumaine, vice-président aux communications de la QPF, et bienvenue à Registre familier, le balado où la QPF délaisse son registre standard et vous convie chaque semaine à sa table pour discuter culture, langue française et enseignement avec des acteurs et des actrices qui s'impliquent dans le monde de l'éducation. Pour cet épisode, on parle planification de la rentrée 2021 avec France Legault, conseillère pédagogique au récit des écoles privées dans le domaine des langues, qui a accompagné l'an dernier une soixantaine d'écoles, entre autres dans le domaine de l'évaluation. Bonjour France.
Bonjour Antoine.
Tu as eu l'idée qu'on aborde la rentrée 2021. Donc, comment s'outiller pour penser, réfléchir notre rentrée après une année et demie pandémique où le domaine de l'éducation a été bouleversé sur tant de niveaux?
Bien, tout à fait. Puis, tu sais, dans le fond, oui, la rentrée, mais les prochaines aussi. Parce qu'il faut garder en tête que possiblement, tu sais, j'utilise le mot possiblement parce qu'on dirait que je suis comme devenue un peu, j'ai besoin de le voir pour le croire, mais possiblement qu'à la rentrée redeviendra un peu plus normale ou la normalité qu'on connaissait avant. Toutefois, c'est sûr que les élèves vont se situer à différents niveaux dans leurs apprentissages. Puis bien ça, il va y avoir des retombées qui vont être sur plusieurs années, là, nécessairement. Là. Cette année et demie-là qui a été bien spéciale, c'est sûr qu'il va falloir qu'on le garde en tête parce que ça ne changera pas là, du jour au lendemain. Là. Ça, c'est certain.
Oui, puis juste pour dire, on enregistre présentement cette balado au mois de juin 2021. Donc, on est quand même quelques mois avant la rentrée et c'est sûr qu'on va discuter selon la situation. On prend une photo selon la situation pandémique actuelle pour voir vers quoi pourrait se dérouler notre année, notre prochaine et nos prochaines années scolaires.
Puis tu as tout à fait raison parce que entre le temps que c'est diffusé, entre le temps que quelqu'un l'écoute peut-être plus tard, bien dans le fond, tout a le temps de chambouler. Puis je pense que l'année prochaine, on va devoir faire preuve encore de flexibilité comme on a dû en faire preuve depuis la dernière année et demie.
Oh oui. Alors, entrons dans le vif du sujet. D'ailleurs, tu as commencé à en parler, là, à voir réfléchir avant tout ou commencer à voir où sont rendus nos élèves quand on va commencer à enseigner en septembre, à quel niveau ils vont être rendus et comment percevoir ça et c'est quoi justement ces différents niveaux auxquels les élèves peuvent être rendus en septembre 2021.
Il y a plusieurs affaires qu'il faut qu'on garde en tête, plusieurs choses. Premièrement, quels sont les savoirs essentiels que les profs vont avoir été en mesure de voir avec les élèves dans les niveaux précédents? Parce qu'on le sait, les savoirs essentiels sont arrivés relativement tard. Donc, les années étaient déjà débutées. Et puis, il y a certains profs qui ont peut-être décidé d'aller plus loin que ces savoirs essentiels-là. Donc, possiblement que déjà, selon l'enseignant, de l'année précédente et de l'autre année d'avant aussi, nos élèves au sein même de notre classe ont peut-être déjà pas les mêmes bases identiques que tout le monde en sort. Si je pense, par exemple, aux élèves de sixième année qui arrivent en première secondaire, bien, dépendamment peut-être des écoles d'où ils proviennent, il va peut-être avoir eu des choix écoles qui ont été faites aussi. On a eu au premier cycle des élèves qui se sont déplacés en classe à tous les jours. Combien de fois la classe a-t-elle été fermée? Combien de temps ça a pris avant qu'on soit en mesure d'offrir un soutien à distance? On peut penser aussi à nos élèves qui étaient en alternance une journée sur deux. Comment ça se passait quand ils étaient à la maison? Est-ce qu'ils étaient disponibles pour apprendre? Est-ce que ça a été possible pour eux de s'investir comme à l'habitude, comme ils ont l'habitude de le faire en classe aussi? Il y a aussi tout l'élément de la disponibilité à l'apprentissage juste parce que, est-ce que nos élèves étaient hyper stressés? Est-ce que ça a affecté leur morale? Est-ce qu'ils étaient déprimés et qu'il y avait un manque de motivation avec toute la pandémie, vu qu'il n'y avait presque plus de social? Est-ce que les bulles classes les ont affectés? Donc, ça se peut qu'on avait des élèves qui étaient présents, mais qui ont peut-être juste fait du présentisme en classe. Puis ça, tous ces portraits-là, bien, je pense qu'il y a autant de portraits que ce qu'on a d'élèves dans notre classe.
Oui, puis ça va être aussi, sans considérer les savoirs essentiels que le ministère devrait fournir aussi pour la rentrée, donc faire cet arrimage-là entre ce qu'on va avoir eu, je pense, en janvier ou en février pour la fin de l'année, mais aussi avec quoi et vers quoi on s'en va pour l'année prochaine quand on aura accès à ces données-là, ce à quoi nous n'avons pas accès présentement dans cette discussion.
Tout à fait, tu as tout à fait raison, parce que le ministère va cibler des essentiels encore pour cette année, donc des savoirs qui vont être prioritaires. Fait que, tu sais, je pense qu'un des premiers éléments là, sur lesquels on peut peut-être se pencher, là, c'est est-ce qu'en équipe école, on peut s'asseoir juste pour savoir nos collègues, qu'est-ce qu'ils ont couvert? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps de couvrir? Puis ça, je pense que c'est vraiment une discussion qui est franche, puis pas dans l'objectif de se lancer des points que tu n'as pas eu le temps de faire ça, puis de se comparer, mais plus d'avoir un portrait peut-être plus réel de ce qui a été fait pour peut-être après ça, nous, dans notre année, aller prioriser certains éléments qui n'ont peut-être pas été vus dans les années passées ou de continuer puis faire du pouce sur ce qui a déjà été fait. Et ça, je pense que dans le début de l'année, de s'asseoir, puis peut-être se faire un document qui est collaboratif, parce qu'on le sait que la situation va demander de l'ajustement sur une longue période de temps. On sait aussi qu'il y a des profs qui ont peut-être changé de chaise. Fait que ça peut peut-être être une première recommandation. Peut-être se créer dans le département de français au sein de votre école un document collaboratif qui indique de secondaire 1 à 5e secondaire ce qu'on a eu le temps de voir, puis ce qu'on n'a pas nécessairement eu le temps de voir, puis vraiment pas dans un objectif de jugement ou de comparaison, mais juste d'avoir un portrait clair puis une planification qui est verticale au sein de notre école.
Oui, ben, je pense entre autres à mes collègues précaires qui vont peut-être avoir leur classe fin août, 5-6 jours avant. Ce soutien-là peut quand même être pertinent quand on rentre dans une nouvelle école, puis avoir rapidement un coup d'œil pour commencer sa planification, puis ensuite rentrer dans le niveau puis aller travailler avec ses collègues.
Bien, tout à fait. Puis, tu sais, moi, je me dis qu'il n'y a aucun mauvais choix. Il faut juste les articuler ensemble en verticalité, nos choix. Que nous, on ait décidé de prioriser cet élément-là au dépens de celui-là, ce n'est pas un mauvais choix. Tout ce qu'il y a dans le programme, on doit le voir avec nos élèves, mais il faut juste s'en parler puis en être conscient. Fait que tu as tout à fait raison. Les profs qui vont arriver de façon précaire. Peut-être aussi qu'il va y avoir des enseignants qui vont devoir être retirés au courant de l'année. Donc, la personne qui va venir s'asseoir sur cette chaise-là, elle a quoi dans son bagage pour poursuivre puis que ça soit cohérent aussi. Mais je pense que de se doter d'une structure à l'interne, ça peut-être donner un coup de pouce. Tu sais, quand on parle, là, on parle vraiment beaucoup plus global.
Oui, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'école pour être capable de s'aider, de s'organiser du département de français? Mais une fois que ça, c'est fait, il faut aussi se poser des questions sur comment... Je vais changer un peu notre ordre, mais de commencer par comment je peux aller chercher ces niveaux-là, comment je peux aller voir où sont mes élèves une fois que je rentre en début d'année avec ces élèves-là, qu'est-ce que je fais pour avoir un portrait et le faire efficacement, parce qu'on sait à quel point, comme enseignant, on court après notre temps constamment. Donc, comment je peux aller chercher ça?
Je pense que les tests diagnostiques, ça n'a pas besoin d'être un test diagnostique approuvé par la recherche, à mon sens, là, mais juste peut-être de demander à nos élèves de lire un texte et d'écrire à propos de ce texte-là, peut-être juste de répondre à une question longue, ça va nous donner rapidement une image de nos élèves. Donc, ça peut être une façon de faire là, ce test diagnostique-là de début d'année, qu'on peut demander une réponse courte, là, en 100 mots. On fait ça à l'intérieur d'une même période. On leur demande de lire un petit texte. On pose une question. Donc, on va déjà aller valider quelle est leur compréhension de la lecture. Puis après ça, s'ils écrivent un court texte, ça va déjà nous donner un niveau de leur difficulté. Puis bien, l'important, là, c'est d'avoir des données. Nos élèves, quelles sont leurs difficultés? Est-ce qu'on peut classer leurs difficultés pour après ça savoir un petit peu plus comment s'enligner? Mais je pense que le test diagnostique là, va probablement aider à savoir ce sur quoi on doit prioriser pour l'année.
Oui, puis ce court texte-là peut facilement faire l'objet, par exemple, d'écriture dans une grille de scripteur, puis je vais aller chercher des données plus précises.
Bon, tout à fait.
Sur le code linguistique, là, où sont rendus mes élèves, où sont leurs difficultés pour après ça prévoir
notre enseignement qui est la suite. Oui. Puis, tu sais, cette façon d'enseigner-là devient beaucoup plus efficace parce que là, on part des difficultés des élèves. Fait que c'est sûr que moi, là, le profil de scripteur, c'est quelque chose en quoi je crois beaucoup. Et je pense que ça aide beaucoup nos élèves parce que là, ça fait du sens. Ce qu'on enseigne en classe, on ne l'enseigne pas parce que notre cahier nous dit que c'est là qu'on est rendu, mais on va le raccrocher au genre qu'on est en train de traiter avec nos élèves, mais surtout à partir de leurs difficultés. Donc, de leur dire aux élèves, aujourd'hui, la notion grammaticale qu'on va voir, ben c'est celle-là spécifiquement parce que c'est ce qui est ressorti de vos tests diagnostiques. Donc, à chaque fois que nos élèves écrivent, ça nous fait des données sur lesquelles on peut bâtir. C'est sûr, c'est un peu insécurisant parce qu'on ne peut pas partir avec une planif qu'on va suivre toute l'année. Donc, il faut vraiment partir des données qu'on va amasser de nos élèves.
Oui, parce que ça demande quand même en amont.
Oui, un peu de lâcher prise, parce que là, on ne peut pas suivre notre planif habituel, on ne peut pas suivre non plus peut-être les notions grammaticales enseignées dans l'ordre du cahier d'activité ou du manuel qu'on a choisi de prendre là. Donc, nécessairement, ça demande de la flexibilité. Je sais que ça fait un an et demi qu'on parle de flexibilité, mais ça va peut-être en demander encore aussi.
Alors là, une fois qu'on a réfléchi en département, qu'on est allé voir un peu comment on pouvait aller valider ou voir, avoir un portrait de classe en français, il y a aussi de dire ben, comment j'enseigne, par quoi je peux commencer mon début d'année. Est-ce que je fais la révision, tu sais, je prends 2, 3 semaines, je fais la révision de l'année d'avant. Est-ce que je commence tout de suite dans la matière puis j'irai au fur et à mesure? Et puis, t'avais quand même quelque chose de quoi à dire là-dessus.
Bien, tu sais, dans le fond, notre équipe, parce que dans le fond, moi, au récit des écoles privées, là, on est une équipe composée de 4 conseillers pédagogiques. Puis l'année passée, on s'est penché sur les études qui ont été faites, notamment en Nouvelle-Orléans, suite au passage de Katrina. Donc, après Katrina, les écoles ont été fermées pendant un certain laps de temps, puis les écoles ont choisi d'y aller avec 2 formules. Certaines écoles sont allées avec la formule revoir au début de l'année, donc au retour des élèves, massivement, tout ce qui avait été manqué ou tout ce qui avait été enseigné à distance pendant la fermeture des écoles. Puis la deuxième option, ça a été à chaque fois qu'on enseignait une notion, on revenait en arrière sur ce qui avait été vu, donc sur les préalables. Donc la révision était faite au fur et à mesure que les élèves étaient en apprentissage. Ce que les études ont démontré, c'est que les écoles qui ont choisi de faire des révisions en début d'année de bloc, un, les élèves se souvenaient beaucoup moins quand arrivait le temps de faire des nouveaux apprentissages de ce qui avait été vu en bloc. Deuxièmement, la motivation avait baissé aussi de la part des élèves. Donc, moi, ce que j'encourage les écoles à faire, puis les enseignants de français, c'est quand vous allez avoir votre planification, que vous avez dit, par exemple, à telle date, là, c'est ce que je prévois voir comme notion. Puis, tu sais, je vais prendre une notion là, bien là, commune en français, l'accord du participe passé avec avoir. Bien, qu'est-ce que mes élèves doivent maîtriser pour être en mesure de faire l'accord du participe passé avec avoir? Puis faire notre révision à ce moment-là des préalables. Ça aussi encore, là, ça demande de la flexibilité parce qu'il faut vraiment se laisser le temps. Puis à chaque fois qu'on prévoit une notion, se dire, bien, il va falloir que je descende de 2 marches pour après ça être capable de remonter. Mais les études le démontrent, c'est beaucoup plus gagnant pour nos élèves. Fait que, tu sais, là, je vais faire un parallèle à des choses qui arrivent souvent, surtout au premier cycle. On commence souvent notre année avec groupe et fonction. Donc, on fait un blitz de révision en groupe et fonction, mais ce n'est pas rattaché à des notions. Donc, on fait juste revoir ça. Ces notions-là au début de l'année, parce qu'on se dit que c'est important. Puis c'est vrai que c'est important, mais c'est hors contexte pour les élèves. Si à chaque fois qu'on en reparle des groupes et des fonctions, au lieu de le voir en blitz au début de l'année, on le raccroche aux notions grammaticales qu'on enseigne, puis qu'on enseigne en spirale ces notions-là, peut-être, puis tu sais, je ne sais pas parce que je n'ai pas fait de recherche nécessairement là-dessus, mais à mon sens, peut-être, un, les élèves comprendraient à quoi ça sert de les maîtriser un petit peu plus. Puis peut-être aussi là, qu'il y aurait des meilleures répercussions puis une meilleure rétention parce qu'au lieu de le voir juste en début d'année, on le reverrait beaucoup plus souvent à l'intérieur de notre enseignement.
Oui. Oui. Ben oui,
Je sais que la grammaire, c'est ta spécialité, là.
Ben écoute, du haut de l'étudiant de maîtrise en moi qui travaille en grammaire, je t'écoute, je suis ah, après la grammaire, mais oui, là, si on continue sur l'accord du participe passé, c'est sûr que de revenir sur c'est quoi un complément direct, puis c'est quoi, tu sais, le plus canoniquement, un complément direct, c'est un groupe du nom placé après le verbe. Ça, malgré tout, demeure, à moins que ça soit uniquement ça, dès qu'on va aller modifier ça, ça peut devenir plus difficile à identifier. Fait que si on aborde accord du participe passé, si on veut qu'il s'accorde, c'est soit un pronom, ben, c'est principalement un pronom, soit le pronom que, soit le la l'apostrophe, qui va être placé avant le verbe, qui est une des positions où l'élève a de plus en plus de difficulté à l'identifier. Fait que, de façon générale, c'est sûr qu'il faut faire un 2, 3 pas. Ben, c'est quoi un complément direct? Vers quoi on peut l'amener? Ça peut être quoi les différentes constructions? Ils ne sont pas toutes la même complexité pour l'amener vers l'accord. Donc, ça va nous amener à revoir puis à réfléchir ces notions-là. Qu'est-ce qu'on a de besoin pour faire de l'accord? C'est souvent la syntaxe. T'sais, fait qu'il y a aussi ce pont-là à faire entre les notions, là. Mes fautes d'accord sont peut-être gérées par d'autres choses qu'une non-compréhension de la règle.
Tu sais, ce que tu amènes, on ne parle même pas de post-pandémie, on parle de réflexion générale. Fait que, tu sais, on peut peut-être profiter de ce moment post-pandémique-là pour réfléchir. Puis peut-être revoir ce qu'on a comme matériel pédagogique pour le découper autrement. De se dire, bien, ces parties-là qui sont hyper importantes et hyper reliées à l'accord du parti de passé, par exemple, bien, je vais les voir en boucle ensemble au lieu de les voir séparément comme mon matériel me le suggère, peut-être. T'sais. De faire des sauts puis vraiment de s'en servir selon notre planification aussi. Là.
Oui. Oui, puis ça demande dans si on utilise un cahier ou un manuel, ça demande de passer, tu sais, de faire la page 7 sur le complément direct pour retourner à la page 52 sur l'accord, peut-être voir le complément indirect en même temps parce qu'on veut les différencier. Donc oui, ça va te demander de brasser les pages de façon générale. Là. Puis oui, le contexte post-pandémique va comme être peut être un prétexte à revoir, en tout cas, nos pratiques ou comment on organise nos contenus grammaticaux. Là, on fera une balado sur l'enseignement de la grammaire.
Bien, tout à fait. Puis, tu sais, on parle post-pandémique, mais le ministère, en ce moment, nous donne deux éléments pour revoir notre planification. La première, c'est aussi la baisse de pourcentage accordé aux examens du ministère en deuxième et en cinquième secondaire en français. Puis l'autre élément, c'est de passer de 3 à 2 étapes. Donc, nécessairement, on doit revoir notre planification.
Oui, parce qu'il y a quand même une grande différence entre planifier, surtout, je pense, la première étape qui est septembre-octobre.
Oui.
Elle a passé de septembre à fin janvier, mi-janvier, fin janvier. Il y a quand même toute une réflexion là à avoir sur, bien, j'ai quand même plus de temps.
Oui.
Mais comment je prévois aussi mes évaluations au travers de ce temps-là qui est beaucoup plus long
ben,
pour cette première partie d'année?
Tout à fait, parce que là aussi, mettons qu'on change de position, on ne se met pas en position prof, mais on se met en position élève. Le bulletin, c'est une photo du développement, du niveau de développement de compétences de l'élève à un moment donné. T'sais, c'est ça, un bulletin. Si je garde cette réflexion-là, ça veut dire qu'un élève qui peut-être a fait un texte narratif le 2 novembre, est-ce que ça représente vraiment son niveau de développement de compétences de janvier? Il y a eu plein de temps pour développer sa compétence en écriture, en lecture, en communication orale, pour faire notre photo de janvier. Puis ça, c'est important de le garder en tête. Parce que ça veut donc dire que quand on va planifier nos évaluations, que tu sais, moi, je différencie plus du formatif du sommatif. J'utilise plus ces mots-là, j'utilise des traces d'apprentissage, des photos. Donc, on va faire tout au long de notre étape des photos du développement de compétences de nos élèves dans nos 3 compétences. Et bien, ces photos-là vont nous permettre de faire un jugement professionnel à la fin de l'étape. Mais là, ça fait des hyper longues étapes. Ce n'est pas possible de penser qu'au nombre d'élèves qu'on a au secondaire, qu'on va s'asseoir avec nos piles d'évaluation pour faire notre jugement professionnel. C'est là où tout ce qui est aspect de portfolio devient super intéressant. Les écoles qui ont accès au numérique, puis quand je parle d'accès au numérique, là, ça peut être un téléphone cellulaire, là, qui ont accès au numérique, bien moi, j'encourage de juste utiliser 2 éléments qu'on a dans nos suites nuagiques. Si, par exemple, vous avez la suite Google, bien, utilisez un Google Slide ou un Google Présentation. Si vous avez la suite Office, d'utiliser PowerPoint. Puis dans le fond, là, à chaque fois que nos élèves vont faire, puis là, je vais prendre l'exemple de la compétence écrire, un texte écrit, bien, on peut leur demander de le prendre en photo puis de le déposer dans ce Google Slide-là ou dans ce PowerPoint-là pour qu'au final, là, on ait juste à consulter un document pour chacun de nos élèves pour voir leur développement de compétences. Puis c'est là où on se retrouve avec un portfolio d'apprentissage. Ça veut donc dire que notre élève, s'il prend en photo ses productions écrites, qu'il prend en photo ses grilles d'évaluation, un, on vient d'éliminer toutes les pertes de documents. Deuxièmement, nous, comme profs, quand les parents, on va les rencontrer pour faire les bulletins, quand on va, des fois, ça arrive qu'on a des appels de tuteurs, qu'est-ce que je peux faire pour aider les élèves. Des fois, il y a des parents qui veulent consulter certains éléments, ou même, quand on va arriver le temps de faire notre jugement professionnel, bien, on aura ce document-là qui va nous permettre de le faire, ce jugement professionnel-là, sans avoir une surcharge de travail de fouiller dans 800 piles de documents pour justement le poser, ce jugement-là. Ça veut donc dire aussi que toute cette documentation-là qu'on va garder, bien, peut-être qu'il va falloir qu'on revoie aussi tous les concepts de pondération qu'on a dans nos portails. Parce que on peut peut-être se dire, un parent qui voit, par exemple, une trace d'évaluation un 2 novembre avec la pondération 20 %, bien, il s'attend à ce que toutes ces pondérations-là soient additionnées pour faire notre note. Mais ce n'est pas comme ça qu'on veut nécessairement la faire, parce que si on pense en jugement professionnel, l'élève a toute l'étape pour développer sa compétence, puis on va vouloir poser notre jugement à la fin. Donc, peut-être qu'on va utiliser des pondérations 0, des pondérations 1, mais on va donc s'assurer que la pondération peut varier aussi. Parce que dans le fond, on pourrait se dire, ouais, mais moi, j'accumule des traces, et puis je vais mettre mon jugement professionnel. Toutefois, les parents, il y a deux choses qu'ils n'aiment pas. Puis là, je vais mettre mon chapeau de mère aussi. Ne pas savoir, ne pas être informé. Donc, de dire qu'on ne met rien au portail, c'est pas lever de drapeau sur ça va bien ou ça ne va pas bien. Fait que, tu sais, déjà là, je pense que c'est important de quand même utiliser le portail pour informer les parents de ce qui se passe et les élèves aussi. Donc, que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Puis, la deuxième élément avec lequel les parents ont certaines difficultés, c'est de ne pas connaître comment ça a été évalué. Le jugement professionnel, c'est ça qui fait peur aux parents. C'est qu'on a l'impression que ce n'est pas un jugement professionnel, mais c'est un jugement personnel. Donc, de s'assurer qu'on a des critères qui proviennent de nos documents du ministère sur lesquels on peut se baser pour faire ce jugement professionnel-là.
Ouais, puis je pense qu'au-delà des parents, moi, je prends mon chapeau de jeune enseignant.
Vas-y.
Ça me fait peur aussi d'utiliser mon jugement professionnel, tu sais, de me dire, bon, je suis dans ma première, deuxième, troisième année de carrière. Ça fait pas 20 ans que je vois des élèves, là, pour être capable d'avoir ce barème-là, quel genre de trace, qu'est-ce qui est pertinent. Donc, pour ça, je trouve pour moi aussi, ça peut devenir un peu anxiogène, me dire, bon, est-ce que mon jugement professionnel est adéquat? Est-ce que j'ai assez de traces? Est-ce que ça me permet de le poser? Fait que pour moi aussi, ça peut devenir questionnant.
Bien, tu sais, puis je te dirais, le nombre de traces, là, ça, c'est une question perpétuelle. Là. Ça m'en prend combien de traces pour faire mon jugement professionnel? Tu sais, il n'y en a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Là. Ça en prend suffisamment pour être à l'aise à le poser. Mais ça n'en prend pas trop non plus pour que les élèves soient tout le temps en évaluation.
En évaluation.
Oui, tu sais, c'est pour ça aussi où, moi, le mot formatif puis sommatif, je l'enlève. Tu sais, dans la tête de beaucoup de gens, le formatif, ça compte pas, le sommatif, ça compte. Fait que, tu sais, quand on parle de ça, c'est une trace. Aujourd'hui, tu vas faire une écriture, ça, c'est une trace. Bien, tu sais, on enlève complètement là, cette thématique-là. Ça veut donc dire que tout ce que je produis en français peut servir pour démontrer mon niveau de compétence. Donc, ça compte-tu? Oui, c'est une trace. Ça compte pour combien? Ça permet de faire mon jugement professionnel. Fait que, tu sais, c'est là où on va peut-être avoir besoin de plus de traces pour certains élèves, moins de traces peut-être pour d'autres. Puis, tu sais, l'élément clé, c'est surtout nos grilles d'évaluation. Parce que nos grilles d'évaluation, bien, ça démontre aux parents que nos grilles proviennent d'un élément clé. Puis cet élément clé, c'est le programme, mais c'est surtout le cadre d'évaluation. Puis ça, le cadre d'évaluation, bien, on ne peut pas s'en sortir. Je veux dire, ce sont les paramètres et les balises du ministère. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on peut se reposer.
Oui, donc démontrer quand même que justement, on veut se sortir des sentiments, mais on va aller chercher nos cadres. Voici les notions enseignées, voici les critères que je dois évaluer, voici les traces que je dois avoir faites. Puis tu sais, tu disais que tu évitais sommatif et formatif. Dans mon cours sur l'évaluation, notre professeur préférait utiliser l'évaluation pour l'apprentissage versus l'évaluation pour la sanction des études.
Tout à fait.
Donc, tout ce qui n'était pas pour sanction devenait un outil pour l'apprentissage. Et ça allait influencer les pondérations, où est-ce qu'on allait les placer dans l'année, qu'est-ce que ça on allait en faire. Mais ce n'était pas ça compte ou ça compte pas. C'est quelle était ma visée. Est-ce que c'est à ce moment-ci que je prends vraiment le portrait de mon élève et dire, bon, voici sa compétence est rendue où pour sanctionner, ou j'évalue, je commande, je fais de la rétroaction pour poursuivre cet apprentissage-là. Donc, ce questionnement-là demeure quand même important. Et là, tu nous amenais tranquillement vers notre programme et comment articuler tous ces éléments-là qui sont quand même différents et qui nous demandent d'aller fouiller, chercher, faire nos liens pour avoir des évaluations et des traces, je vais utiliser tes termes, pertinentes, solides et qui, puis je garde quand même qui ne nous gruge pas trop de temps.
Non, tu sais, puis ça, c'est ça, pour moi, là, c'est comme vraiment un élément clé, puis on va en parler, là. Tu sais, dans le fond, là, pour se dégager du temps, là, il faut qu'un, qu'on comprenne l'articulation programme, cadre d'évaluation, progression des apprentissages. Tu sais, le programme, c'est le gros document qui comprend plein de textes super importants à lire, mais qu'on n'a pas nécessairement le temps de consulter dans notre quotidien. Le cadre d'évaluation, c'est vraiment nos critères d'évaluation de compétences. C'est ce sur quoi on devrait se baser pour évaluer. C'est aussi là-dedans qu'on voit ce qu'on ne peut pas évaluer, mais ce sur quoi on doit donner de la rétroaction, notamment tout ce qui est stratégie, stratégie de lecture, stratégie d'autocorrection et autres. Tout ça, on ne peut pas évaluer, mais on doit donner de la rétroaction aux élèves. Donc ça, ça se retrouve dans notre cadre d'évaluation. Notre progression des apprentissages, c'est vraiment le contenu, puis c'est là-dedans aussi qu'on retrouve les savoirs essentiels qu'on devrait cibler là, pour suite à la pandémie. Sauf que, là, c'est là où je fais comme mon 8-mai de CP. Là. Si je veux tout couvrir mes savoirs essentiels, premièrement, là, si on regarde chacun des savoirs essentiels, il y en a qu'on fait de façon implicite, qu'on le fait, là, mais qu'on ne pourrait pas nécessairement le cocher, ou que si on fait une rétrospective sur notre année, ben, on ne sait pas si on l'a fait ou si on ne l'a pas fait, parce que c'est très, très détaillé et très, très précis. Si on se dit qu'on veut faire tout ce qu'il y a sur notre progression des apprentissages, on se retrouve avec une liste à cocher. Ça veut dire qu'on enseigne vraiment, vraiment beaucoup de choses. Toutefois, on ne donne pas nécessairement le temps à nos élèves, justement, d'avoir des traces, de se pratiquer, de devenir plus compétents, d'écrire plus souvent, de peut-être partir de leurs erreurs pour aller plus loin. Fait que, tu sais, c'est là où je mets un peu un bémol sur la progression, le cadre. Et à mon sens, le cadre devrait prioriser ou être beaucoup plus important que notre progression parce qu'au final, ces notions-là, puis là, je vais mettre mon chapeau numérique, on est toujours à un clic de tous les savoirs. Mais devenir compétent en écriture, d'être accompagné en lecture, en communication orale, ça, on n'est pas nécessairement à un clic de l'être. Tu sais, nous, comme rôle de prof, comme accompagnateur, notre objectif, c'est de développer les compétences de nos élèves. Puis bien, le reste, ça s'acquérera dans le temps aussi.
Oui. Bon, là, moi, je vais mettre mon chapeau didacticien. Vas-y. En disant quand même la progression.
Oui, on la suit. Oh. Oui.
Oui, mais je suis d'accord qu'il faut faire des choix puis la travailler en spirale, ouais. Mais j'étais comme, ah, on n'est pas un clic de tout dans notre progression.
Non. mon point étant, oui, la progression, mais le développement des compétences. Tu sais, je vais juste faire un parallèle. Si j'enseigne toute ma progression, mais que mes élèves écrivent deux fois dans l'année, là, je ne suis pas plus avancée. Parce qu'ils ne sont pas capables, après ça, d'aller transférer leurs apprentissages. Puis bien, pour écrire plus souvent, bien ça, ça demande du temps. Bien, ce temps-là, je vais peut-être le prendre en faisant des choix dans ma progression, puis pas nécessairement tout enseigner.
Oui, puis peut-être aller plus vers une progression transversale ou d'école.
Exactement.
De dire, bon, puis on revient au début oui. de notre discussion, de dire, bien, on va aller s'asseoir pour aller voir arrimer par niveau, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se travaille, comment on peut le développer pour être sûr quand même qu'on développe les compétences, on acquiert les connaissances, mais que ça se fait en écrivant, en lisant, en communiquant oralement de façon plus fréquente, sans pour autant augmenter. On a quand même un temps X d'enseignement oui. en français.
Oui. Puis tu sais, c'est là où tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc et tout est dans la nuance. C'est de... Oui, il faut prendre notre programme, il faut prendre notre cadre, il faut prendre notre progression, il faut faire des choix dans tout ça, puis il faut prioriser aussi. Là.
Et on a aussi des optiques pour être capable d'aller, je veux dire, fusionner, mais aller travailler ensemble plus d'une compétence ou plus ouais. d'une notion pour être capable d'aller justement aller chercher ce temps-là et en même temps de créer peut-être un apprentissage ou un travail plus complexe et plus concret que la notion est maintenant contextualisée. Ou qu'est-ce que j'utilise à l'oral va être investi à l'écrit. Donc, il y a ça aussi qu'on peut aller travailler.
Bien, tu sais, nécessairement, si on pense planification, parce que, tu sais, depuis le début, on parle de, oui, faire des choix, mais on parle de donner de la rétroaction, de documenter, de poser son jugement professionnel. Puis, bien, tout ça, ça serait se mentir que de dire que ça se fait tout seul. T'sais, on parle de faire lire plus souvent nos élèves, de les faire écrire, de les faire communiquer plus. Bien, tout ça, ça demande de la rétroaction. Puis bien, cette rétroaction-là, malheureusement, ça, le clic ne permet pas nécessairement de le faire tout seul. Fait que, tu sais, nécessairement, il faut se dégager du temps. Puis, tu sais, c'est là où, moi, ce que j'appelle toujours des coups doubles ou des coups triples peut devenir intéressant. Tu sais, de demander, par exemple, de poursuivre la rédaction ou de changer d'événement dans un roman qu'on a lu pour poursuivre l'écriture, bien, ça peut nous permettre d'aller chercher des critères en lecture, de valider la compréhension et l'interprétation de l'élève d'une œuvre. Puis après ça, aller valider aussi l'écriture dans un texte narratif, par exemple. Mais dans le fond, ces coups doubles-là permettent d'aller peut-être se sauver du temps. Puis à l'aide de deux grilles, donc une grille de lecture, une grille d'écriture, bien, on peut aller chercher deux traces d'un coup à partir d'un même texte. Puis tantôt, on avait, je vais le dire, là, mais sans la caméra, on avait une discussion. Puis tu sais, tu apportais là, notamment l'oral. Oui, l'oral, c'est un objet qu'on doit enseigner, mais si on veut le faire pratiquer souvent avec nos élèves, tu parlais notamment là, des procédés du texte argumentatif. Là, tu sais, là, j'essaie de te faire une pause pour que tu comprennes.
Oui, hey, je t'écoute parler, je suis là, ah, ouais, c'est tellement bien dit. Mais oui, c'est les procédés argumentatifs, qu'on soit en lecture, en écriture, à l'oral, ça demeure les mêmes. Tu sais, l'appel à l'autorité, la cause à effet... Et là, parce que je dois en dire...
Bien, t'en as déjà dit, là.
Les autres sortent de ma tête, mais d'utiliser ça, bien, si je suis capable de faire une cause à effet à l'oral, le procédé est là. Ensuite, je peux aller nuancer, voir comment elle écrit avec les bons marqueurs de relation, tout ça, mais quand même, la notion va être là. En lecture, bien, si je suis capable d'en produire, ça va être aussi facilitant pour le reconnaître. Donc, on a tendance à beaucoup aller d'abord vers l'écrit, alors que l'oral est aussi le médium pour être capable de les aborder, qui peut se faire, je crois aussi, avec moins de matériel, tu sais, de faire des discussions, d'aller aborder ces notions-là, ça peut quand même bien se faire dans le cadre d'un cours, puis ensuite aller reprendre ces mêmes notions-là à l'écrit, en lecture. Donc, il y a cette idée-là aussi de travail qu'on peut apporter pour faire, comme tu dis, là, des coups doubles, des coups triples, pour dire bien, comment je réinvestis ça pour ne pas avoir uniquement à faire bien, une communication orale par étape, un texte par étape, mais aussi faire de la rétroaction, mais de la rétroaction aussi rapide, parce que mes élèves peuvent oublier rapidement, dire, bon, bien, le texte que vous avez fait il y a un mois et demi, parce que j'en ai 120 à corriger, bien, est-ce qu'il y a encore un impact pour vous? Ou est-ce qu'il fait encore du sens? Donc, d'aller chercher cette rétroaction-là plus rapide, de dire, bien, on va le faire sur le procédé. Fait que là, dans la classe, ben, tu vas voir, tu sais, je peux faire une rétroaction orale rapide que je vais pouvoir après ça aller faire un peu plus pousser à l'écrit. Donc, il y a tout ça, je pense, à aller voir.
Bien, tout à fait. Puis, tu sais, c'est là aussi où tu sais, d'utiliser le numérique. Là, tu sais, là, je remets mon chapeau de numérique. Mais par exemple, de poser une question d'interprétation aussi, puis demander aux élèves d'y répondre à l'oral pour aller faire un coup double. Tu sais, là, c'est sûr que si on a en tête qu'on rencontre chacun de nos élèves, on ne s'en sort pas. Mais il y a des outils, puis moi, un outil que j'aime beaucoup, c'est Flipgrid. Flipgrid s'installe sur un téléphone, un ordi, un iPad. C'est facile d'utilisation. On peut aussi paramétrer le temps que va durer cette capsule-là. Donc, est-ce qu'on demande un 90 secondes? On n'est pas obligé non plus d'avoir un 15 minutes là, de la part des élèves. Fait que, tu sais, dans le fond, tous ces outils-là nous permettent d'aller faire des coups doubles, d'aller dire, bien, ça va être l'objet que je t'ai enseigné en oral. Donc, tous ces procédés-là, je vais te demander de l'utiliser pour ensuite faire une analyse critique ou peu importe. Puis, bien, ta réponse, elle va compter en lecture. Puis ensuite, elle va compter aussi en oral parce qu'on a vu ces éléments-là en classe. Donc, de peut-être revoir notre planification puis de s'assurer que chaque élément nous permet d'avoir plus qu'une trace. Donc, une trace dans plus qu'une compétence pour qu'on aille au final, un, pour que les élèves, ça fasse du sens, puis que les trois compétences deviennent vraiment imbriquées les unes dans les autres. Puis qu'en même temps, nous, en matière de correction et de rétroaction, on vient peut-être de s'en éliminer un petit peu. Je ne dis pas que c'est moins long, mais on vient peut-être juste d'articuler les choses autrement aussi pour nous.
Oui, que d'avoir le texte, l'examen de lecture une autre fois, oui. La présentation orale une autre fois.
Oui.
Et d'être capable de tout rassembler ça peut-être en moins de temps.
Ben, en tout cas, en moins de corrections.
Oui, en moins de documents disparates.
Oui. Fait que tu sais, c'est là où tout c'est... Donc, tu sais, j'ai ciblé ce qui était essentiel dans ma progression des apprentissages. Je me suis assurée qu'avec mes collègues, c'est cohérent. Je me sers du numérique pour garder des traces, pour faire mon jugement à la fin de mon étape parce que je sais que les étapes vont être plus longues. Les étapes vont être plus longues, donc j'ai peut-être plus de temps pour enseigner certains éléments parce que je vais avoir des élèves qui vont être à différents niveaux. Donc, je vais m'assurer aussi d'avoir des portraits de classe. Et puis après ça, j'essaie que mes évaluations, que mes traces soient des coups doubles ou des coups triples, de façon à être en mesure de peut-être avoir moins de corrections puis pouvoir accorder plus de temps pour accompagner les élèves, notamment en classe.
Ce qui fait quand même une belle synthèse
de
la présentation. Écoute, comme ça. Mais pas besoin d'en faire une, merci. Je commence à la prévoir dans ma tête.
Mon Dieu, je m'excuse.
Non, c'est parfait. J'allais plus te le demander que de la faire moi-même.
Il y a un dernier élément, là, quand on parle de sauver du temps. Nos élèves ont vécu une année et demie particulière en matière de relations sociales et de comportement de société. Donc, peut-être qu'au début de l'année, au lieu de prévoir une révision des années passées, on peut peut-être penser à miser sur le développement des compétences sociales, des interactions, le développement de l'autonomie. T'sais, comment on se comporte dans une classe? C'est quoi mes ressources si je dois poser une question parce que le prof ne sera peut-être pas disponible? À quel moment je peux parler? À quel moment je peux interagir? Comment j'interagis? Donc, tous ces éléments-là, comment je travaille, comment je reçois de la rétroaction, comment je peux en donner de la rétroaction. Donc, de miser sur le développement de compétences qui ne sont pas dans le programme bien précis de français, mais qui font partie du vivre ensemble en classe. Donc, peut-être de commencer cette année qui redeviendra, on croise nos doigts à partir de juin, normale l'année prochaine, ou en tout cas une nouvelle normalité, mais comment je peux faire pour mettre un climat de classe qui donne le goût d'apprendre. Pour après ça, peut-être que ces apprentissages-là vont se faire plus facilement aussi. Là.
J'ai l'impression dans la dernière, je ne sais pas, demi-heure, trois quarts d'heure, je ne sais pas ça dure combien de temps, d'avoir tellement d'autres sujets. Je pense qu'on aurait pu discuter comme toute la journée de bon. Là, on va parler juste du numérique. Là, on va juste parler de telle chose. On va juste parler de l'arrimage entre compétences. C'est riche. Donc, je tiens à te remercier, France, pour cette discussion sur notre préparation à notre prochaine année scolaire et plus largement, je crois, juste comment repenser nos débuts d'année, comment un peu voir une année scolaire, comment penser notre année scolaire en classe de français.
Oui.
Si vous avez aimé cette balado, je vous dis qu'on en aura d'autres sur différents sujets. Donc, c'est ce qui conclut cet épisode de Registre familier sur la planification de la rentrée 2021. Si vous avez apprécié ce balado, n'hésitez pas à partager et n'oubliez pas non plus de visiter les différentes plateformes de la QPF et son site web. Sur ce, je vous dis à la prochaine.
Merci Antoine, bonne journée.
Bonne journée.